Jésus-Christ selon sa mort. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin sur le, ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de cette page d'évangile. C'est quoi ce paradoxe? C'est qu'il nous donnait des signes vraiment de la fin des temps, un peu comme des outils de discernement pour savoir le reconnaître lorsque ça arrivera. Et Jésus affirme cette capacité qu'on peut avoir à les reconnaître, à les nommer avec l'image du figuier. Et puis la finale de l'évangile. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, si on regarde un petit peu derrière nous, c'est quand même arrivé régulièrement qu'il y en ait qui annoncent la fin des temps, et manifestement, ils se sont trompés. On est encore là. Et en fait, ils se sont trompés, oui et non. Moi, je pense à Saint Paul, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, il affirme « Nous qui nous trouvons à la fin des temps ». Si on comprend l'histoire du monde, il y a toute l'attente du Messie, l'Ancien Testament, les cieux qui sont encore fermés, pour prendre du langage biblique, il y a les années de la vie terrestre de Jésus, et puis là, on est dans ces derniers temps. L'ascension, la Pentecôte, et puis cette attente du retour en gloire du Christ. Les derniers temps, ce n'est pas seulement les 15 jours qui vont précéder ce retour en gloire, c'est la période dans laquelle on vit. Avec cette question que je me pose et que du coup je vous partage, est-ce qu'on attend vraiment le retour en gloire du Christ? Est-ce qu'on l'attend? Avec un peu lent. Cette image, je trouve, du figuier qui est belle, on pourrait peut-être l'adapter pour chez nous. C'est sûr qu'un agriculteur dans la Marne va voir arriver avant moi les signes avant-coureurs du printemps ou de la nature qui bouge, parce que il a un intérêt, vraiment, il guette cela. Et on devrait avoir la même chose pour savoir reconnaître ce qu'on appelle les signes du temps. L'expression est un peu usé, mais elle n'est pas fausse. Est-ce qu'on est tendu vers ce retour en gloire? Je pose la question parce que parfois, j'ai entendu des personnes dire, ce que je peux entendre, lorsqu'on lit Daniel, lorsqu'on lit l'Apocalypse, lorsqu'on lit Jésus qui annonce ce retour en gloire, on a l'impression que c'est d'abord une période un peu douloureuse. On annonce des catastrophes, des épidémies, Non, mais ça fait 2000 ans qu'on y est. sur un effet d'entonnoir d'accélération à la fin, mais cette période d'épreuve dont parle Jésus en annonçant la fin immédiate, on voit bien qu'on est déjà, dessus. Et qu'on ait ce désir, parce que c'est le désir liturgique, on pourrait dire. C'est-à-dire, mais viens, Seigneur Jésus, on va le dire tout à l'heure, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus. Et c'est un désir à cultiver en nous. Et dans la manière de le cultiver, je propose deux pans. Le premier, c'est vraiment ce désir du ciel. On demande cette grâce, si on l'a pas, on la cultive, si on l'a, de désirer le ciel. Pourquoi je dis qu'on la demande, qu'on la cultive, là-dessus, on est un petit peu inégaux. Il y a des gens qui, c'est très beau, depuis qu'ils sont beaux comme ça, ils ont qu'un rêve, c'est d'aller au ciel. C'est peut-être l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila qui avait compris que pour aller au ciel, il fallait mourir, donc il y avait les morts qui étaient dans l'Espagne. Bon, ça chauffait un petit peu. Alors, elle a pris son petit frère par la main pour l'emmener aller voir les morts en disant comme ça on va mourir et ce sera le seul moyen de voir Dieu. Bon. Heureusement, ses parents l'ont arrêté à temps. Mais elle avait ce désir du ciel. Il y a des personnes pour qui c'est pas leur grâce propre. Eh bien, c'est une grâce à demander dans la prière aussi. Seigneur, fais que je désire la vie éternelle. Qu'on soit tendu vers cela. C'est dur à imaginer, parce que Jésus prend toujours, lorsqu'il en parle, il emploie toujours le langage de l'image. Il dit toujours « il en sera du royaume des cieux comme de… » Et puis, il parle de quelque chose de notre vie, comme quelque chose qui est… Ou alors, le seul livre qui nous décrit le ciel, vraiment, c'est l'Apocalypse. Bon, mais l'Apocalypse, c'est à peu près impossible de se représenter visuellement ce qui est raconté. On voit bien que ça nous dépasse complètement. Alors comme on a du mal à l'imaginer, parfois on a du mal à le désirer. Mais c'est une grâce à demander. Seigneur, fais que je désire le ciel et que ça change de manière de vivre. Et puis, c'est l'autre versant qu'il faut tenir les deux. C'est cette idée, on en parlera encore plus dimanche prochain, du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Je lui dis qu'il est déjà là et il n'est pas encore là. Et je me dis, on hâte aussi le retour en gloire du Christ, parce qu'on œuvre pour le royaume. Et ça veut dire œuvrer pour le royaume, c'est assez simple, c'est vraiment vivre en chrétien. Avec cette image qu'on a mal compris dans l'Église, je trouve, moi je suis même certain, et quand on prend ce qu'écrit Vatican II, c'est, pour le coup c'est limpide, cette fameuse image du levain dans la pâte. On sait qu'il faut être levain dans la pâte. Donc on a mis les prêtres, les religieuses, les religieux en civil en disant ils vont être le levain dans la pâte. Alors en fait, ce n'est pas la vocation propre du consacré, le levain dans la pâte. Au fond, chers amis, hein, sauf ma sœur, mais c'est vous. C'est le laïc par son baptême qui vit au milieu du monde, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans ses relations amicales, c'est lui qui doit. Petit à petit essayer d'y faire grandir l'évangile. Avec ces deux parts, avec cette annonce explicite qu'on doit faire par nos paroles et par nos actes, c'est pas toujours assez facile, mais il faut. Et puis vous avez ce beau passage chez Daniel, cette expression qui m'a accroché, peut-être vous aussi. Daniel, on est quand même sur un livre un peu mystique. Vision de Daniel. Bon, mais là il parle de ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude. Il n'est pas des maîtres de spiritualité, il est des maîtres de justice. C'est-à-dire que notre manière de faire grandir le royaume des cieux, il faut tenir les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas seulement une annonce très spirituelle ou seulement une justice sociale. C'est de tenir vraiment les deux ensemble. Et que notre... Je pense que c'est une grâce à demander pour nous. Que notre manière de vivre, notre but sur terre, il est double. C'est aller au ciel et permettre aux autres d'y aller avec nous. C'est ça le but de la vie ici-bas. Et c'est pas une autre, c'est une autre manière de dire aimer Dieu et aimer son prochain. Parce que si j'aime Dieu, j'ai qu'à rêver. Si Dieu veut le voir enfin face à face, et si j'aime vraiment mon prochain, j'ai qu'un souhait pour lui. Si le meilleur pour lui, c'est qu'il arrive un jour auprès de Dieu. Peut-être qu'on puisse prendre, méditer ces idées-là dans cette semaine qui nous sépare du Fils du Roi, qu'on va fêter dimanche prochain. Et qu'on arrive en ayant porté dans notre prière quotidienne cette semaine, peut-être de comprendre un peu mieux cette idée du royaume de Dieu, de désirer que Christ soit vraiment ce roi pour nous et qu'on vive cette solennité des dimanches comme un peu un aboutissement de notre semaine de prière.